Une nouvelle formation est proposée par l'Institut catholique de Toulouse.
Alors que la question des migrations occupe l'actualité de notre pays et de ses voisins européens, un nouveau diplôme universitaire Migration et Exil va être proposé à partir de novembre par l'Institut catholique de Toulouse. Quel est son contenu? À qui s'adresse-t-il et comment répond-il aux questions actuelles? L'invité de Radio Présence va répondre à nos questions. Bonjour Enguerrand Serrurier.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes maître de conférence et directeur des études de la Faculté libre de droit de l'ICT. Qu'est-ce qui a prévalu à la mise en place de ce nouveau DU, diplôme universitaire Migration et Exil?
Alors, il y a trois choses qui ont parrainé effectivement cette création. C'est, je dirais, dans l'ordre chronologique, bien sûr, nos intérêts de recherche en tant qu'enseignant-chercheur. Nous avions, par exemple, déjà organisé à la Faculté libre de droit une journée d'études sur la protection des réfugiés ukrainiens, un bilan après un an de guerre en 2022, parce que c'est un régime particulier au sein de l'asile et donc il y avait des questions juridiques assez complexes à ce sujet. Ensuite, la deuxième chose, c'est, disons-le, un événement assez important en termes de contentieux, en termes de professionnalisme aussi pour ce secteur-là, c'est la territorialisation de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui est la plus importante juridiction administrative en termes de nombre de décisions et qui était jusqu'ici concentrée à Montreuil, en région parisienne, et qui maintenant va avoir des antennes qui vont fonctionner à partir du mois de novembre à Bordeaux, Toulouse, Lyon et Nancy. Donc on a une régionalisation de ce contentieux et il n'y avait pas de formation, disons-le. Et le troisième élément, vous le savez, vous m'avez déjà invité sur cette antenne pour en parler, c'est l'histoire de l'Institut. L'Institut catholique de Toulouse qui, pendant la guerre, s'est illustré notamment en aidant les réfugiés, qu'il s'agisse d'Espagnols, de Polonais ou de Juifs, bien entendu. Et donc, il y avait aussi un certain intérêt moral à cette formation.
Une sorte de devoir, finalement.
Oui.
Oui. Quel est le contenu de cette formation, Enguerrand Serrurier?
Alors, forcément, c'est une formation de la faculté libre de droit. Donc, la base, c'est du droit. Je dirais qu'on est à peu près à 60% de droit d'asile, puisqu'il faut bien distinguer au sein du droit des étrangers le droit d'asile, qui est donc une procédure particulière pour demander une protection internationale. Et le droit des étrangers, on en a à peu près 40%, on va dire, c'est de façon plus générale le séjour, l'entrée et le départ aussi des étrangers en France. Mais c'est aussi une formation qui est transdisciplinaire. Parce que l'asile l'exige en tant que tel. On est dans des procédures qui sont en bonne partie psychologiques. Hein. Lorsqu'on évalue une demande d'asile, on évalue alors non pas la vérité, on ne va pas aller jusqu'à la vérité judiciaire, on n'est pas au pénal, on ne peut pas établir des vérités. Mais on va établir la crédibilité d'une demande en fonction du récit d'une personne, des éléments qu'on peut effectivement entendre de sa part. Et donc ça demande une formation éthique, psychologique pour les juristes. On a un cours par exemple de psychologie de l'asile. Le but n'est pas de faire de la grande théorie, hein. Il s'agit de comprendre comment, face à des personnes qui sont potentiellement traumatisées, eh bien, permettez-moi l'expression, en tirer des informations qui soient utiles à la cause du droit, puisqu'il s'agit de déterminer ou pas si elles ont droit au statut de réfugié. Donc c'est quelque chose d'assez transdisciplinaire et on le voit dans le contenu du DU, il y a une partie de cours sur toute l'année à raison de deux jours de session par mois et il y a aussi un séminaire en fin d'année, en juillet, où on va faire rencontrer des spécialistes du HCR, de l'OFI, etc.
Alors, puisque vous parlez de la crédibilité, j'aimerais bien vous faire rebondir sur votre autre casquette, puisque Enguerrand Serrurier, vous êtes aussi juge assesseur à la fameuse cette CNDA dont vous parliez, cette Cour nationale du droit d'asile. Vous êtes donc nommé par l'ONU, si on peut dire.
Alors, nommé par le Conseil d'État sur proposition de
voilà,
l'ONU.
Voilà, c'est ça. Et quels sont donc les critères pour évaluer la crédibilité d'une demande d'asile?
Alors, il faut déjà rentrer dans les cinq motifs de la Convention de Genève. Ce sont des persécutions, donc il faut atteindre un niveau d'atteinte très grave, menace pour la vie, séquelles physiques, etc., pour des raisons politiques, raciales, religieuses, appartenance à un certain groupe social ou nationalité. Alors souvent, le national et le racial se coupent parce que les discriminations et persécutions sur un motif racial peuvent s'accompagner de discriminations sur la nationalité. Souvenez-vous, le cas des Rohingyas en Birmanie, auxquels on niait la nationalité. Alors on a des critères d'évaluation qui sont notamment compilés par le Haut Commissariat des réfugiés pour les Nations Unies, qui publie un guide très approfondi de 300-350 pages, qui essaye de compiler la jurisprudence, de proposer aux assesseurs notamment des techniques d'entretien qui permettent ainsi d'évaluer si il n'y a pas trop d'incohérence dans ce que dit le demandeur. Mais c'est une matière aussi où, il y a beaucoup d'humains. C'est-à-dire que c'est l'une des rares matières juridiques où on va considérer que le doute bénéficie au demandeur. Parce que nous sommes dans des situations humaines qui sont parfois extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables. Vous pouvez avoir un demandeur qui justement est venu à Montreuil depuis Valence, depuis Perpignan la veille, qui a dormi dans la rue la veille parce qu'il n'avait pas les moyens effectivement de se loger autre part, et qui donc va être dans un état parfois un petit peu hagard devant la cour. Évidemment, si le récit ne tient pas la route et ne tient pas face à nos questions, il n'aura pas l'asile. C'est le cas dans 80 à 85% des cas devant la CNDA, il faut le dire. Mais aussi, il faut accepter qu'il puisse y avoir parfois une tentation chez certains demandeurs de renforcer leur récit en parfois grossissant les faits. C'est à nous de savoir trier entre le bon grain et l'ivraie, car il peut y avoir quelque chose de vrai.
Oui. Alors, puisque la CNDA va s'installer à Toulouse à partir de novembre, est-ce que c'est cette formation, ce DU Migration et Exil proposé par l'Institut catholique de Toulouse va s'adresser aux personnes qui vont travailler à cette Cour nationale du droit d'asile ?
C'est l'un des objectifs. Oui. D'ailleurs, cette formation est créée en partenariat avec le HCR, justement, le Haut Commissariat pour les réfugiés, mais aussi le service jésuite des réfugiés, notamment avec des volontaires qui accueille des personnes réfugiées, mais aussi avec l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et le corps consulaire de Toulouse. Vous voyez qu'on a essayé d'avoir une formation qui est dans le juste milieu sur un sujet qui est parfois, objet de polémique.
Oui, très clivant.
Tout à fait. Et donc, le but, c'est d'arriver à l'application du droit. Il ne s'agit pas d'être pro ou anti. Il faut effectivement être dans une situation où l'on peut estimer que le droit est respecté et qu'il soit éthiquement admissible en tant que chrétien. Ainsi, ce DU s'adresse, à des avocats, à des juristes qui vont travailler à la CNDA, mais aussi à des responsables associatifs, des travailleurs sociaux ou toute personne de bonne volonté qui souhaite s'impliquer dans ces domaines-là.
Le 16 octobre, 16 hommes originaires du Bangladesh et d'Égypte sont arrivés dans le port albanais de Shenji par un bateau de la marine italienne selon la procédure d'externalisation de la demande d'asile. Et je voulais vous demander, Enguerrand Serrurier, sur quel fondement juridique est basée cette procédure ?
Alors, il y a eu un accord qui a été signé entre l'Italie et l'Albanie l'année dernière, en novembre 2023, qui prévoyait d'externaliser les demandes d'asile. C'est devenu un phénomène, disons-le, un peu à la mode. On se souvient en 2016 du fameux accord UE-Turquie par rapport aux réfugiés syriens, qui d'ailleurs avait été vraiment camouflé par les chefs d'État européens, dans le sens qu'il s'agissait d'un accord qui avait été adopté en marge d'un sommet européen, mais on avait bien précisé dans l'accord que ce n'était pas une décision du sommet européen en tant que tel pour éviter qu'il soit justiciable devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le diable est dans les détails. Mais par rapport à cet accord bilatéral, il s'agissait donc finalement d'externaliser la demande en créant des centres d'accueil en Albanie. Le statut de l'Albanie comme pays sûr en termes d'asile pose question. Il y a en Albanie des problèmes systémiques liés à la mafia, liés à des règlements de compte du type vendetta local. Mais au-delà de ça, Au-delà de ça, cet accord vient de prendre un sérieux revers avec une décision des juges la semaine dernière italiens qui ont établi que le Bangladesh et l'Égypte, qui étaient donc les pays d'origine des demandeurs en question, n'étaient pas des pays d'origine sûre. La notion de pays d'origine sûre en droit d'asile, c'est une procédure c'est un statut qui permet une procédure accélérée. Si on est face à un pays d'origine sûre, il y a peu de chances effectivement que la demande aboutisse. Ainsi donc, on peut aller plus vite, disons-le. Ça ne veut pas dire que c'est bâclé, mais on va plus rapidement en termes de procédure. Cette décision déjà annule ce premier transfert, puisque nous ne sommes pas face à des pays d'origine sûre. Et donc la question, c'est ne faut-il pas qu'ils soient jugés sur leur demande en Albanie avec un accès à un avocat, à toutes les garanties juridiques. On est dans une zone grise. Disons que officiellement, concrètement, ce n'est pas interdit en tant que tel, ces procédures d'externalisation, mais on est bien sur un moyen de contournement en réalité de l'obligation de traitement des demandes d'asile et notamment d'un article fondamental de la Convention de Genève qui est l'article 33 qui pose le principe du non-refoulement. Il faut étudier les demandes avant d'évacuer, d'expulser des personnes du territoire.
D'accord. Depuis des mois, les gouvernements européens avancent, on va le dire un peu, en ordre dispersé sur les sujets de la migration. Et pour sa part, l'Union européenne a définitivement adopté en mai un pacte sur l'asile et la migration, vous en parliez, qui va renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'UE. Que dit le juriste que vous êtes de ces procédures ?
Alors, la compétence en termes d'asile et de migration, c'est une compétence qui est partagée entre l'Union européenne et les États membres depuis l'adoption, grosso modo, des accords de Schengen. Il est tout à fait normal qu'en ayant établi un espace de libre circulation entre nous, il y ait un début de coordination. Et on est même au-delà du début, il y a une coordination avec des aspects qui pêchent, notamment la solidarité entre les États membres. Et notamment, on peut l'entendre, les États comme l'Italie, qui sont des États de première arrivée et qui se sentent en difficultés face au flux. Et on voit bien que c'est cette question de solidarité qui pêche le plus. Alors on essaye de créer des procédures d'asile à la frontière le plus possible. On ne sera pas sur des cas d'externalisation, mais de frontiérisation de l'asile avec des centres d'études des demandes d'asile qui seront aux frontières extérieures de l'UE, mais sur le territoire des États de l'UE et non pas une enclave comme on le voit en Albanie avec le cas italien. Il s'agit effectivement de vouloir donner un tour de vis. La question qui se pose pour le juriste, on va dire spécialiste du droit d'asile, c'est est-ce qu'on respecte toujours l'analyse individuelle des demandes ? Ce qu'il faut éviter, c'est des expulsions collectives et des situations de déni de justice, car dans ce flot de demandes, il y a des gens qui méritent effectivement la protection internationale. Pourquoi j'utilise le terme de mériter ? C'est important. L'asile, c'est un droit fondamental, certes, mais c'est un droit qui est lié à une question de dignité. Notamment, il y a bien sûr la dignité humaine, mais il y a aussi des exceptions pour l'asile. Il y a notamment au sein de la Convention de Genève, on ne le dit jamais assez, un article 1F qui prévoit des clauses d'exclusion. Et donc, on est exclu de l'asile, notamment quand on a commis des crimes graves, des crimes contre l'humanité, etc. C'est quasiment le seul droit fondamental qui est subordonné à cette condition de mérite. Ainsi donc, je pense qu'il faut faire en sorte que l'asile étant finalement une création européenne et canonique, ça remonte au concile d'Orléans de 511 sous Clovis, quand même, c'est quelque chose de très ancien, il faut faire en sorte que nous puissions maintenir cette tradition tout en faisant face effectivement à des flux de personnes qui sont importants. Mais ce sont bien des personnes.
Et puisque vous parlez de personnes et de dignité, il y a aussi cette demande de pardon que le pape François a formulée le 1er octobre pour les péchés contre les migrants. Et en tant qu'université catholique, comment l'Institut catholique de Toulouse se positionne-t-il à travers ce DU Migration et Exil sur la juste posture à adopter face aux migrants ?
Alors, bien sûr, ma parole n'engage que moi et pas l'Institut catholique. Donc, je suis uniquement sur ma posture de juriste en droit d'asile. Il me semble que, en réalité, le pape reprend des éléments qui sont admis au niveau international dans la Convention de Genève, notamment l'interdiction du principe le principe du non-refoulement. Donc, l'interdiction du refoulement, comme je vous le disais, il faut que les demandes soient traitées et évaluées de façon juste. On ne peut pas simplement repousser les gens à la mer, comme cela peut parfois s'entendre sur certains réseaux. Il en va aussi de notre honneur. dans cette affaire. Ce qu'a dit le pape me semble très fort. Il parle du péché contre, du péché d'indifférence aux migrants. Donc l'indifférence à l'humanité. Effectivement, on ne peut pas simplement dire cela ne nous concerne pas. Et donc cela pose au-delà la question de la gouvernance des migrations. Et d'ailleurs, lorsque le HCR ou les États des Nations Unies se réunissent pour essayer d'adopter des textes complémentaires à la Convention de Genève, eh bien le pape François publie des textes, notamment lors du pacte de Marrakech en 2018, qui n'est qu'une résolution des Nations Unies. Ce n'est pas un traité, contrairement à ce qu'on entend parfois. Pape François avait produit un document, 20 principes d'action pour aider à la gouvernance. Encore une fois, ça ne veut pas dire « laissons entrer tout le monde ». Ça signifie « étudions de façon juste les demandes
». Merci beaucoup, Enguerrand Serrurier. Il est encore temps de s'inscrire à ce nouveau diplôme universitaire « Migration et exil » à l'Institut catholique de Toulouse. Bonne journée.
Merci Isabelle.